Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir. Durant ces deux derniers jours, nous avons médité sur ces mots. Nous nous réfugions. Peu à peu, nous avons découvert que Marie, toute tournée vers son Fils, est la transparence parfaite de la grâce et le refuge sûr pour ceux et celles qui cherchent Dieu. Toujours discrète, mais profondément présente, sa délicatesse maternelle nous invite à nous abandonner à la miséricorde de son Fils, Jésus. Pour ce cinquième jour, nous allons contempler l'icône de la Théotokos avec l'invocation Sainte Mère de Dieu, du Subtuum Presidium. Ces mots, Sainte Mère, Sainte Marie, Mère de Dieu, répétés aussi dans chaque Ave Maria, résonnent comme un hymne de confiance et d'espérance au cœur de notre foi. Ils nous plongent au cœur du mystère de la maternité divine de Marie, qui éclaire notre espérance chrétienne en révélant que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de se faire tout proche de nous. À chaque Ave Maria, lorsque nous redisons « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs » ou l'invocation « Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu », une question peut surgir. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Lui qui est incréé, éternel et pur esprit. Marie, en effet, est la mère de Jésus de Nazareth. Mais qui est Jésus? Est-il un simple homme? Ou bien Dieu venu parmi nous? La foi chrétienne affirme qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, uni en une seule personne, l'unique hypostase du Fils. Lorsque l'Église proclame que Marie est mère de Dieu, Théotokos, elle rappelle le cœur même de la révélation. Dieu s'est fait homme. Le Verbe a pris chair en Marie, afin que l'humanité soit élevée à la vie divine. Extraordinaire échange, Dieu en l'homme et l'homme en Dieu. Ainsi, invoquer Marie, Mère de Dieu, c'est demander l'intercession de la créature la plus proche du mystère divin, celle qui déjà, à Cana, avait ouvert son cœur en disant à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Et elle nous répète sans cesse, inlassablement, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Oui, cette invocation Sainte Mère de Dieu est un véritable acte d'espérance, car elle affirme que l'incarnation est le centre même de notre salut. Par sa maternité divine, Marie devient la mère de l'espérance, ayant porté en son sein le Verbe éternel. Elle nous garantit que notre humanité blessée par le péché est pourtant destinée à la gloire des enfants de Dieu. L'Immaculée Conception de Marie, préservée dès l'origine de toute tâche de péché, est déjà le signe lumineux de notre espérance. En elle se révèle l'humanité rachetée, victorieuse du mal par la grâce anticipée du Christ. À Cana, son regard attentif au manque de vin manifeste son rôle d'intercession maternelle. Elle discerne nos pauvretés, les présente à Jésus et nous invite à écouter sa parole pour accueillir ses dons. Lorsque nous invoquons Sainte Marie, Mère de Dieu, nous entrons dans cette même obéissance confiante, certains que le Seigneur fera porter à nos vies des fruits surabondants. C'est une espérance qui change l'eau de nos faiblesses en vin de vie éternelle. Pour bien comprendre le lien profond qu'il y a entre l'Immaculée Conception et la maternité divine de la Vierge Marie, reprenons ce que nous dit le dicastère pour la doctrine de la foi dans sa récente note Mater Populi Fidelis. Et méditons cette vérité avec une lumière nouvelle. Dès les premiers instants de sa conception, la grâce du Rédempteur l'a touchée de manière unique et anticipée. Marie a été préservée du péché originel en considération des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Elle est la première transformée par l'Esprit-Saint, le prototype de ce que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Celle qui a reçu dans son sein la force de l'Esprit-Saint et qui a été la Mère de Dieu, devient par ce même Esprit la Mère de l'Église. Ce n'est pas un privilège arbitraire, c'est une grâce anticipée, une rédemption prévenante qui prépare la jeune fille de Nazareth à devenir la mère du Rédempteur. Dieu, dans son amour prévoyant, a voulu que celle qui allait porter en son sein le Verbe divin soit elle-même toute pure, comblée de grâce, avant même de pouvoir répondre. Comme le dit magnifiquement cette note théologique, je cite, « Même la première rachetée est rachetée par le Christ et transformée par l'Esprit avant toute possibilité d'une action propre. » Son immaculée conception n'est pas un privilège qui l'éloigne de nous. Elle est au contraire le premier fruit de la rédemption, le signe que la grâce du Christ peut nous rendre pleinement à notre dignité première. Ainsi, l'Immaculée Conception apparaît comme le berceau de la maternité divine. Parce qu'elle est la première achetée de manière éminente, Marie peut coopérer librement, pleinement, joyeusement au mystère de l'incarnation. Son fiat n'est pas celui d'une créature marquée par le péché originel, mais celui d'une fille de Sion déjà transfigurée par la grâce du ressuscité qui vient. En contemplant Marie Immaculée, nous comprenons que sa maternité divine n'est pas d'abord un titre d'honneur, mais un don d'amour. Dieu a voulu avoir une mère qui soit, dès l'origine, toute à lui, pour qu'à travers elle, il puisse nous donner tout de lui. Et en nous donnant cette mère immaculée, Jésus nous dit ce soir, « Tu peux devenir toi aussi une demeure toute pure pour mon Fils. » C'est dans ce sens que petite Thérèse chante sa louange eucharistique dans sa prière « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Je la cite. « Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. Cette femme consacrée dans la virginité, Thérèse, vit intensément avec Marie et au sein de l'Église dans ce cœur brûlant d'amour qui unit inséparablement le cœur de Marie et celui de l'Église. Cœur d'épouse offert à Jésus seul et cœur de mère livré à Jésus, tout en s'ouvrant à tous les hommes créés et racheté par lui. C'est dans son amour d'épouse et de mère que Thérèse fait resplendir le mystère de la coopération de Marie et de l'Église à la rédemption. En effet, Thérèse a été très peu touchée par le péché, selon les conclusions de son confesseur. Écoutons Thérèse. Mon entrevue avec le bon père, le père Almire Pichon, fut pour moi une consolation bien grande, mais voilée de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais faite. À la fin, le père me dit ces paroles, les plus consolantes qui soient, venu retentir à l'oreille de mon âme. En présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis il ajouta : Remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. Thérèse n'est pas sans péché, comme on peut le dire certains écrivains qui ont mal interprété les propos du père Pichon. Thérèse est une orgueilleuse qui s'est convertie. À force de demander la grâce de l'humilité, elle a été exaucée. C'est par une grâce surnaturelle que Thérèse est devenue humble. Thérèse se sentait au contraire proche des grands pécheurs et pécheresses, et elle enseigne à tous une voie aux horizons lumineux. On pourrait croire, dit-elle, que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. Les âmes comprendront tout de suite, car c'est un exemple si frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. Thérèse, elle-même, avait conscience de n'être préservée du péché grave par le fait même que Dieu, tel un père prévoyant, avait enlevé de sa route les pierres qui auraient dû faire tomber son enfant. La finale de son manuscrit C révèle combien Thérèse perçoit la miséricorde infinie que déploie Jésus pour elle. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. C'est un aspect particulier, original, de la sainteté de Thérèse qui peut être comparé dans le modus vivendi avec la sainteté de la Vierge Marie. Ailleurs, Thérèse vit cela de façon très juste, en se comparant à sainte Marie-Madeleine, la pécheresse convertie. Elle ne craint pas d'affirmer « Jésus m'a plus remis qu'à Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. » De même, depuis l'épisode du criminel Pranzini, son premier enfant, elle se sent très proche des plus grands pécheurs. Thérèse porte douloureusement le poids du péché contre la foi, en étant elle-même plongée dans les ténèbres de l'athéisme moderne. Devenue sœur des athées, elle intercède pour eux avec le plus grand amour et aussi la plus grande confiance concernant leur salut. C'est pendant cette période que Thérèse écrit cette phrase étonnante. Je n'ai pas choisi une vie austère pour expier mes fautes, mais celles des autres. Nous pourrions dire que, sans jamais faire aucun péché contre la foi, Thérèse s'approprie le péché des incroyants de la façon la plus intime, la plus intérieure, pour qu'ils reçoivent la lumière et soient sauvés. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas tellement de ceux qui, en fait, sont incroyants, sans faute de leur part, mais de ceux qui, en péchant contre la foi, passent de la foi à l'incroyance. Thérèse est au cœur du drame de son temps, celui de la déchristianisation en acte. Il faut citer le début de son manuscrit C pour mieux en saisir la gravité. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a vraiment, véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui, par l'abus des grâces, perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. L'expression clé de Thérèse, les ténèbres, est beaucoup plus forte que celle de nuit. Elle signifie la puissance du péché. Un peu plus loin, Thérèse nous donne une description la plus complète de ces ténèbres. Les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent